Quelle que soit l'époque ou le siècle, la culture ou le pays, il y a toujours des idées farfelues qui circulent et auxquelles un certain nombre de gens adhèrent. Les incrédules, ceux qui refusent d'accepter les saintes écritures comme la parole de Dieu, sont prêts à croire n'importe quoi. Ils sont d'une crédulité à couper au couteau. En 1986, les membres d'une secte étaient convaincus qu'en se suicidant, ils allaient pouvoir enfourcher une comète de passage. Au premier siècle, les Juifs qui s'étaient retirés dans la région de Qumran, proche de la mer Morte, croyaient dur comme fer que le monde à venir serait dirigé par l'archange Michel et ses anges. Ces fausses croyances sont ridicules, mais surtout tragiques. Je continue à lire dans le chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux. Car ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Verset 5. Le mot pour monde n'est pas le terme habituel, cosmos, mais un mot qui signifie terre habitée que nous avons déjà rencontré. On le trouve aussi dans l'Évangile quand Jésus dit « Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. » Le monde à venir dont parle l'auteur est donc sur terre et non pas au ciel. Le mot pour soumis était utilisé pour décrire l'organisation hiérarchique de légionnaires commandés par leur officier. Par extension, ce terme était aussi utilisé pour évoquer un système de gouvernement. Le monde actuel dans lequel vous et moi vivons aujourd'hui est sous la domination du prince des ténèbres et de ses anges déchus qui sont les démons. Mais le monde à venir sera très différent car d'une part, Satan et ses cohortes seront emprisonnés et d'autre part, c'est Jésus, le prince de la paix, qui sera roi ici-bas pendant 1000 ans. Les Hébreux, à qui cette épître est adressée, savaient très bien qu'un jour le Messie de la lignée de David établirait son royaume sur terre, car tous les prophètes et la plupart des livres de l'Ancien Testament en parlent. Ce thème était comme un hymne national du peuple de Dieu. Le millénium sera suivi par la création d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux qui seront administrés par Jésus-Christ. Cependant, les croyants régneront avec lui tandis que les anges resteront ce qu'ils sont déjà, c'est-à-dire des serviteurs qui obéissent à leur maître. L'auteur arrive maintenant à la fin de sa démonstration de la supériorité incontestable de Jésus-Christ sur tous les anges, y compris l'archange Michel ou les autres d'un rang hiérarchique élevé. Je continue le texte. Au contraire, un texte de l'Écriture déclare qu'est-ce que l'homme pour que tu t'occupes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu l'as établi sur les œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Verset 6 à 8. Cette citation est tirée d'un psaume selon l'ancienne version grecque. David, qui en est l'auteur, parle principalement de la nature de l'homme, mais il annonce aussi le Messie parce qu'il est l'homme idéal. L'auteur de cette épître fait l'inverse et met surtout l'accent sur Jésus-Christ, tout en parlant de l'homme en général. David établit un contraste entre la majesté de Dieu et la fragilité humaine. On a dit que l'homme est une créature insignifiante sur une planète secondaire. C'est vrai qu'il ne pèse pas lourd dans la balance. Toutes les composantes chimiques de son corps se vendraient entre 1 et 2 euros au plus. Il est poussière et cette matière première ne vaut pas grand-chose. Il paraîtrait que la taille de l'être humain se situerait quelque part entre la plus petite particule et le plus grand astre connu. Il est plusieurs milliards de fois plus grand que la première et plusieurs milliards de fois plus petit que le second. Mais j'ai pas vérifié. Ce qui est sûr par contre est que l'homme est un artisan du mal et a fait banqueroute au niveau moral et spirituel. Intellectuellement, il se prend très au sérieux alors qu'au fond il connaît vraiment peu de choses concernant ce vaste univers dans lequel il vit. Il pond des théories fumeuses qu'il lui est impossible de vérifier, mais auxquelles il s'accroche parce qu'il a rejeté son Créateur. Ceci dit, la citation du psaume considère la dignité de l'homme en tant que représentant de l'Éternel sur terre, et en particulier en Jésus-Christ, l'homme idéal. En effet, le Fils de Dieu n'est pas devenu un ange, mais nous a honorés en devenant humain. Avant sa naissance, il était le Dieu Tout-Puissant, mais une fois recouvert de chair et de peau, pendant un temps, il est devenu inférieur aux anges, ce que sa mort a mis en évidence. Mais s'il a revêtu notre condition, c'était afin de nous révéler Dieu, et maintenant, il représente tous les croyants auprès du Père. En une phrase, on peut dire que Jésus amena Dieu sur terre et emmena l'homme au ciel. Pourtant, seuls ceux qui sont en Christ, confondus avec lui, entreront effectivement dans le royaume des cieux. Cette citation du psaume décrit aussi la destinée que dans sa bonté Dieu réserve à la nouvelle humanité, car il veut que l'homme règne en compagnie de son Fils. C'est en Jésus-Christ, le nouvel Adam, et à la fin des temps, que l'humanité retrouvera la place qui était sienne et qu'elle a perdue à cause du péché. Ce psaume de David nous renvoie au livre de la Genèse et à la création d'Adam et Ève, quand Dieu a dit « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. » Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » L'homme a été créé inférieur aux anges dans la mesure où il est composé de poussière. C'est un être physique, une créature matérielle, confinée à la terre et emprisonnée dans l'espace-temps, tandis que les anges sont des esprits célestes, libres comme l'air, et doué de pouvoirs surnaturels. De plus, après le triage qui a eu lieu lorsque Satan s'est révolté contre Dieu, les anges restés fidèles sont devenus saints, tandis qu'après la désobéissance d'Adam, toute la race humaine a été maudite, et la création avec lui. Hôpitaux, médecins, médicaments, pesticides, pompiers, policiers, pompes funèbres, cimetières, témoignent que la terre est maudite. Cependant, l'humiliation de l'homme est temporaire, car un jour il règnera avec le Christ et alors possédera un rang supérieur aux anges. Un prophète a écrit « Le royaume sera donné aux membres du peuple saint du Très-Haut, et ils le posséderont pour toujours éternellement. » Le règne, la souveraineté, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut. Le règne de ce peuple est éternel, et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. Si Dieu a abaissé l'homme pour un peu de temps au-dessous des anges, il l'a aussi couronné de gloire et d'honneur, et a mis toutes choses sous ses pieds. Comme je l'ai déjà souligné, David et l'auteur de l'Épître parlent tous deux de l'homme en général et de Jésus-Christ en particulier, mais avec une emphase différente. Il s'agit d'une ambiguïté prophétique. L'expression « fils de l'homme » est certes une façon poétique de désigner l'homme en général, mais surtout un titre qui apparaît plusieurs fois dans l'Ancien Testament et que Jésus s'est donné quand il était parmi nous. Le mot traduit par couronné a donné Stéphane en français et fait référence à la couronne d'honneur que recevaient les vainqueurs d'un tournoi sportif ou d'une campagne militaire. Quand Dieu a créé Adam, il lui a soumis la terre et un jour, la volonté de Dieu s'accomplira. Jésus-Christ régnera sur ce monde en compagnie de la nouvelle humanité, moralement pure comme au commencement, mais en plus revêtue de la sainteté du Christ. L'expression « il a mis toutes choses sous ses pieds » fait allusion à la position du roi dont le trône était toujours élevé, de sorte que tous ceux qui entraient en sa présence devaient se prosterner devant lui et parfois même lui baiser les pieds. À la fin des temps, la terre sera à nouveau placée sous le contrôle de l'homme et toute la création sous la houlette de Jésus-Christ. Je continue le texte. En soumettant toute chose à son autorité, Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Verset 8. L'auteur parle toujours de l'homme en général, mais surtout de Jésus-Christ, et les deux se confondent. Depuis qu'Adam a désobéi à Dieu, lui et ses descendants ont perdu leur royaume et leur couronne, ce qui fait que la terre n'est plus soumise à l'homme. Elle lui avait pourtant été donnée et devait pourvoir à tous ses besoins sans qu'il ait à travailler. Adam n'avait qu'à l'accepter avec reconnaissance et en profiter tout en se soumettant à Dieu. Mais il a désobéi. Et Satan, le tentateur, a usurpé la couronne de l'homme. Et désormais, c'est lui qui mène le bal. L'apôtre Jean écrit que le monde entier est sous la coupe du diable. Aujourd'hui, l'homme se trouve tout en bas de l'échelle hiérarchique, car le diable contrôle ce monde qui domine l'homme. En effet, nous devons constamment nous battre contre la nature, les éléments, les épines, les insectes et mille autres choses pour survivre. Le règne végétal et animal est devenu notre ennemi, et l'homme ne peut tirer sa subsistance qu'au prix d'un dur labeur. Après sa résurrection et ascension, Jésus est monté aux cieux où il s'est assis à la droite de la majesté divine pour régner. Mais c'est loin d'être évident. En fait, on ne peut y croire que par la foi. Depuis son triomphe sur la croix, il s'est déjà écoulé presque 2000 ans, et les années continuent à s'égrener. Mais un jour, il reviendra sur terre pour prendre par la force ce qui lui revient de droit. En attendant, nous vivons une parenthèse eschatologique, en quelque sorte, durant laquelle Jésus est en train de constituer son Église qui fait partie de la nouvelle humanité et qui un jour régnera avec lui dans les cieux. Quand il aura établi le royaume du millénium sur terre, aura lieu une métamorphose radicale de la nature. Ce monde sera comme un nouveau paradis. L'apôtre Paul écrit « La création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. » Même le règne végétal sera transformé. Je lis un passage. Que le pays désert et que la terre aride se réjouissent, que la steppe jubile et se mette à fleurir comme les lys, que les fleurs y abondent et que sa joie éclate, qu'elle pousse des cris de joie. La gloire du Liban, la splendeur du Carmel et celle du Saron lui sont données. Là, on verra la gloire de l'Éternel et la splendeur de notre Dieu. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. » Fin de citation. Dans le monde à venir, une fois le millénium établi, on fermera les prisons et les hôpitaux, les maladies auront disparu et les médecins se reconvertiront à une autre profession. Il n'y aura plus ni délit ni pauvreté, et les animaux ne s'entre-dévoreront plus. Les arbres fruitiers donneront des récoltes extraordinaires sans qu'il y ait besoin de s'en occuper. Les magouilles politiques n'auront plus lieu et la paix régnera partout. Un prophète écrit, « Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues et de leurs lances, ils feront des faucilles. » Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation et l'on n'apprendra plus la guerre. Les vaches et les ours brouteront côte à côte et leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille. Le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. on ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte. » Fin de citation. Un jour, la domination que l'homme a perdue lui sera rendue et il l'exercera sous la houlette du Messie, son chef. Mais nous n'en sommes pas encore là. Alors, revenons sur terre. Je continue le texte. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis, mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le contemplons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. Verset 9. Jésus est le nom humain du Fils de Dieu. En parlant de Marie, l'ange a dit à Joseph, « Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Nous devons nous arrêter sur Jésus et le contempler. Un regard furtif ne verra rien, mais un examen attentif remarquera combien il est différent de nous dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Notre intelligence ne peut pas saisir tout ce qu'il est. Il nous faut voir Jésus avec les yeux de la foi qui s'émerveille devant sa personne et l'œuvre qu'il a accomplie. À cause de leur a priori religieux, les Juifs ne pouvaient pas concevoir que Dieu devienne homme et encore moins qu'il meure, surtout sur une croix, un châtiment réservé aux criminels et aux rebelles. L'idée que le Messie de la lignée de David puisse subir une telle mort était insoutenable. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'apôtre Paul écrit « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs ». Pour les Juifs incroyants, la croix était une raison qui justifiait leur rejet de Jésus. En effet, de leur point de vue, comment le Messie pouvait-il être supérieur aux anges qui ne peuvent mourir? Et comment peut-il être le sauveur alors qu'il a été tué? Comment celui qui a créé les anges, qui est leur seigneur et qui fait l'objet de leur adoration, pouvait-il s'humilier à ce point? Telles étaient les questions que même les Hébreux croyants se posaient et auxquelles l'auteur répond. Dans une perspective toute humaine, Jésus, qui est descendu plus bas que terre, puisqu'il a souffert la croix, est mort et a été enseveli, est forcément inférieur aux anges, puisqu'eux ne meurent pas. Mais il faut considérer que cette humiliation du Fils de Dieu a été son triomphe sur la malédiction du péché et sur la mort pour le bénéfice de l'humanité. Il s'est associé à nous, s'est abaissé jusqu'à nous afin de nous tirer à lui. C'était là le but de son abaissement pour un peu de temps au-dessous des anges. Il fallait qu'il participe à la race humaine pour pouvoir la porter et expier ses fautes sur la croix. Car, faut-il le rappeler, le seul paiement possible pour le péché, c'est la mort. Déjà dans l'Ancien Testament, par un de ses prophètes, l'Éternel dit « Toutes les vies m'appartiennent, celles des fils comme celles des pères, elles sont toutes à moi. » Eh bien, la personne qui commet le péché devra mourir. Et l'apôtre Paul écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Tout acte, ou même pensée contraire à la perfection divine, mérite la mort. Ça paraît sévère, mais telle est l'exigence divine et l'enseignement des Écritures. Cependant, Dieu propose une solution, un substitut en Jésus-Christ. C'est lui qui a porté le châtiment que les hommes méritent en mourant à leur place. Sans son sacrifice, nous ne pourrions pas échapper au jugement et à la mort. L'agonie que Jésus a vécue sur la croix était causée par la malédiction du péché, et il l'a expiée pour tous les hommes de tous les temps. Telle est l'étendue de la miséricorde divine. En révoquant la malédiction qui pesait sur la race humaine et sur tout l'univers, Jésus a payé la dette de l'homme, ce qui permet à ce dernier de retrouver sa place de maître de la terre que Dieu avait donnée à nos premiers parents. Pour être rétabli dans sa position première, l'homme aurait dû mourir et ressusciter en une nouvelle créature, ce qui est impossible. Alors la grâce de Dieu a voulu que Jésus le fasse pour nous. Il a bu jusqu'à la lie la coupe de la mort la plus cruelle que l'homme ait pu concevoir. Puis, il est ressuscité à notre place et c'est en lui que nous obtenons le pardon des péchés et que nous devenons une nouvelle créature. Alors que nous méritons la mort, Dieu nous a fait grâce parce qu'il nous aime et il donne gratuitement la vie éternelle à tous ceux qui placent leur confiance en son Fils, Jésus, parce qu'il est mort à notre place par amour pour nous. L'apôtre Jean écrit « Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. » Quand quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur, il lui est identifié dans sa mort et résurrection. La malédiction qui pesait sur lui est annulée et il devient co-héritier avec le Fils de Dieu dans son royaume où nous le contemplons maintenant couronné de gloire et d'honneur. L'humiliation de Jésus-Christ a été suivie de son élévation à la droite du Père où il est assis sur le trône de son règne pour l'éternité. L'apôtre Paul écrit « Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. » Fin de citation. La croix est bien évidemment l'objet de notre salut, mais elle glorifie également le Seigneur. En effet, il y a un peu plus de 2000 ans, le Fils de Dieu, la seconde personne de la Trinité, était dans la gloire en compagnie de son Père. Point final. Mais aujourd'hui, il y a au ciel un homme représentant la nouvelle humanité qui a été glorifié en tant que Fils de l'homme, le nouvel Adam. Il a acquis une gloire et un honneur supplémentaires et méritoires qu'il n'avait pas avant la croix. En effet, les anges le connaissaient uniquement comme Fils de Dieu, tandis que maintenant, avec les croyants, ils l'adorent aussi en tant que Fils de l'homme.